Pour répondre à la question que vous aviez posée, pour répondre à la question que vous aviez posée au début sur les apparitions reconnues, non reconnues, en suspens, on va faire un petit inventaire maintenant. Hein. Il n'est pas exhaustif, parce que si on voulait être exhaustif, on en aurait des pages et des pages, mais en gros, l'essentiel, hein. Les apparitions reconnues par l'Église, donc vous avez la Salette, et encore, pourquoi est-ce qu'on commence en 1848? Il y en a eu d'autres avant. Hein. En Bretagne, il y en a une en 1650, etc. La Salette 1848, Lourdes 1858, Pomain 1871, Fatima 1917, et en Belgique, Bourrin et Banneux, 32 et 33. Dans les reconnaissances récentes, Akita au Japon, reconnu en 1984, Kibeo au Rwanda, reconnu en 2001, Betania au Venezuela, en 1987, Amsterdam, reconnu en 2002, et Notre-Dame-du-Los, reconnu récemment en 2008. Oui, 1664-2008. On a pris son temps. Mais il y en a beaucoup d'autres, c'est pas une liste exhaustive
et
du tout.
Qu'est-ce qui a fait que de 1664 à 2008, là, vous vous rendez compte tout le temps qu'il aura fait?
Oui, absolument.
Qu'est-ce qui a fait que c'est reconnu?
Il y a plusieurs évêques qui ont travaillé dessus. Monseigneur Di Falco, qui est le dernier, a poussé le processus à sa fin, parce qu'il était prêt, c'était à peu près terminé. Ben, je ne saurais pas vous dire exactement, parce que c'est compliqué, effectivement. Parce que c'est assez complexe. Il n'y avait pas seulement les apparitions de la Vierge Marie, il y avait tout le rôle que Benoît Trancurel, la voyante, a pendant des dizaines d'années, le rôle qu'elle a pu... manifestée auprès des confesseurs sur place. Elle préparait les gens à la confession. Elle avait un charisme pour préparer les gens à la confession. Donc les gens qui venaient en pèlerinage et qui pouvaient bénéficier de sa direction spirituelle et sa présence étaient préparés et menés jusqu'au prêtre pour la confession. Et donc elle a eu un rôle très important, outre tous les phénomènes. Il y a des cas en suspens. Il y a des cas en suspens assez nombreux qu'on ne. Oui, l'Escorial en Espagne. Les apparitions ne sont pas reconnues, contrairement à ce qu'on dit, mais deux associations canoniques ont été érigées par l'archevêque de Madrid en 1993 et 1994, et il a autorisé en 2012 la construction d'une chapelle, mais il n'a pas abrogé la note négative de son prédécesseur en 1985. L'île Bouchard en 47, donc apparitions ne sont pas reconnues pour l'instant, mais le pèlerinage et le culte public à l'église paroissiale sont autorisés depuis 2001 par Mgr 23, qui était un chevalier de Tours à l'époque.
Il y a une des personnes qui vit encore, hein.
Oui,
à l'île Bouchard.
Jacqueline Aubry, oui.
Vous
oui.
L'avez rencontrée?
Oui. Oui. Pellevoisin, 1876. Les apparitions ne sont pas reconnues, mais le culte autorisé dès 1877. Et en 1983, la guérison de la voyante, qui était morte en 1929, a été reconnue comme miraculeuse. Le Pellevoisin, il y a un très beau message aussi. Mais... La rue du Bac, 1830, les apparitions ne sont pas reconnues non plus, mais l'autorisation de diffuser la médaille a été donnée, évidemment.
Oui. Mais autorisation de diffuser... Ah oui, ils autorisent de diffuser la médaille quand même.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est parce que
c'est parce qu'ils n'ont pas éprouvé la nécessité de reconnaître pour autant les apparitions. Le message essentiel étant contenu dans la médaille. Quand on regarde bien la médaille, quoi. Au Marie sans conçu, sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, etc. Donc. Alors, il y a aussi des lieux, des révélations et des apparitions qui ont fait l'objet d'un jugement négatif de l'évêque du lieu. Donc les dates qui sont données ici sont les dates des actes épiscopaux. Et si vous voulez vous rendre sur les textes officiels, je les ai mis en ligne sur mon blog. La ligne qui est marquée ici, Charismata. Voilà. Garabandal en Espagne, négatif en 1962. San Damiano en Italie en 1968. Kérisinen en France en 1973, Dozulé en France, en Calvados, 1985, Manduria en Italie, 1997, Naju en Corée 2009, la voyante est excommuniée en 2008. Les cénacles de prière de Valais en Maine-et-Loire 2010. Françoise et les messagers de la tendresse de Dieu 2005 par Monseigneur de Montléon, évêque de Meaux. Françoise, 13 livres, publié 13 livres de paroles de Jésus. Voilà, donc c'est un petit mémo pour dire quelles sont les apparitions reconnues, en suspens, non reconnues. Enfin, c'est bon de le rappeler quand même, parce que on nous bassine toujours avec San Damiano, ou avec Kérisinène, ou avec Dozulé, ou avec d'autres, quoi. Le cas difficile de Medjugorje, alors ça, c'est effectivement, nous y voilà. Le cas est difficile, et on va regarder, si vous le souhaitez. Peut-être on ne va pas tout regarder, parce que comme il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui se sont prononcés pour, si vous voulez, donc sur la colonne de gauche, le fait que Medjugorje se soit produit dans une paroisse en 1981, que ça a été reconnu comme sanctuaire en 1991-93, hein, avec ces paroles à l'époque de la déclaration de la conférence épiscopale yougoslave, mais la Yougoslavie n'existe plus maintenant, qui disait on ne peut affirmer, c'est la phrase en gras, on ne peut affirmer le caractère surnaturel de ces apparitions ou révélations, mais cependant, plus bas, une saine dévotion envers la Vierge peut être promue en accord avec l'enseignement de l'Église. Voilà, donc reconnaissance comme sanctuaire. Mais on ne peut pas affirmer le caractère surnaturel des apparitions et des révélations. Et puis en 93, le cardinal Kuharik, archevêque de Zagreb, disait ceci: nous les évêques, nous avons accepté Medjugorje comme lieu de prière, comme sanctuaire. Cela signifie que nous n'avons rien contre le fait que quelqu'un vénère la Mère de Dieu d'une façon qui est également en accord avec les enseignements et la foi de l'Église. C'est pourquoi nous remettons cette étude à plus tard, l'étude de fond. L'Église ne se précipite pas. Bon, toutes ces choses-là, vous les savez plus ou moins. Il y a suffisamment de gens qui ont fait de la publicité très très positive sur Medjugorje. J'ai mis, moi, plutôt des éléments à charge en disant ceci: on ne peut ignorer que les deux évêques successifs de Mostar, l'évêché dont dépend Medjugorje, depuis 1981, donc ça n'engage que deux évêques, ont pris une position absolument négative, absolument négative. Or, c'est l'évêque qui a. Voilà. Donc, sur mon blog, vous pourrez trouver un dossier des documents essentiels qui vont dans le sens négatif. J'ai pris cette option face au pilonnage unilatéral dans le sens positif, à commencer par les publications de Mgr Laurentin, puis celles de la Communauté des Béatitudes et la Communion Marie-Reine de la Paix. Donc, j'ai listé, ça en plus petit caractère, un certain nombre de choses. Monseigneur Zanik, évêque de Mostar, La vérité sur Medjugorje. En 2003, il y a eu un texte de Monseigneur Brincard, évêque du Puy, Ce que dit l'Église au sujet des faits de Medjugorje, qui est aussi critique. En 2004, Monseigneur Peric, le nouvel évêque de Mostar, donne une conférence à Dublin, Medjugorje, secret, message, vocation, prière, confession, commission. Une conférence critique. En 2006, le même évêque, à la fête du corps et du sang du Seigneur à Medjugorje, des extraits de son homélie sont négatifs. En 2006 encore, il parle de sa rencontre avec Benoît XVI lors de sa visite à Dlimina en février, et il a donné une interview là-dessus qui est en anglais. En 2007, un texte signé de sa main, où il fait à nouveau le point en reprenant le tout depuis les débuts et en soulignant les incohérences. En 2008, le père Tomislav Vlasic, l'un des premiers promoteurs de Medjugorje, ex-directeur spirituel des voyants, suspendu de son ministère sacerdotal pour diffusion d'une doctrine douteuse, manipulation des consciences, mysticisme suspect, désobéissance à des ordres émis de façon légitime. En 2010, l'acte d'accusation de l'évêque exorciste Mgr Gemma. Les apparitions de Notre-Dame, tout est faux. Les voyants mentent sous l'inspiration de Satan pour s'enrichir sur le plan économique. C'est un peu carré. En 2010 encore, après le passage de Mgr Schönborn, archevêque de Vienne, fin 2009, à Medjugorje, et la lettre d'excuse qu'il a écrite ensuite à Mgr Peritsch, parce qu'il n'avait pas prévenu de sa présence et de son arrivée, le cardinal Saraiva Martins, un cardinal portugais, qui était chargé à ce moment-là de la Congrégation pour la cause des saints, et exprime son scepticisme à l'égard de Medjugorje. Ce cardinal n'est pas n'importe qui, il a été collaborateur proche et fidèle d'abord de Jean-Paul II, plus tard de Benoît XVI, recteur d'une université, très apprécié par Paul VI, théologien, ancien préfet de la Congrégation pour la cause des saints, grand expert de l'apparition de Fatima, 1917. En 2011, dans le diocèse de Mostar, la rébellion de quelques franciscains confine au schisme, affirme l'évêque de Mostar. Vous avez sur tous ces aspects un site qui est bien fait, qui s'appelle Medjugorje sans masque. Donc vous avez l'adresse en dessous, que vous pourrez aller voir. Il y a des dossiers très très bien faits. Et je trouve que l'interview du cardinal Saraiva Martins, qui était venu au Mans pour béatifier Basile Moreau en 98, je crois. Non, je ne sais plus, oui, plus tard que ça. Et donc, dans cette interview qu'il a donnée, je trouve que c'est extrêmement équilibré. Éminence, à votre avis, les prétendues apparitions médiévales doivent-elles être considérées comme vraies ou fausses? Il dit ceci, cela ne fait aucun doute, les apparitions ne devraient pas être considérées comme authentiques aussi longtemps qu'elles n'ont pas été approuvées par l'Église en la personne du Saint-Père. Donc lui, il remonte carrément jusqu'au pape. Bien. Deuxièmement, on dit que le Saint-Siège veut attendre aussi longtemps que possible avant de s'exprimer lui-même. Selon moi, cela paraît être la meilleure façon de procéder. L'Église fait bien d'être prudente en face d'événements si délicats qui impliquent inévitablement les sentiments de millions de fidèles. Troisièmement, comment doit procéder un fidèle catholique désirant aller en pèlerinage à Medjugorje? Il ne doit pas tenir pour acquis et ne doit pas se convaincre que les apparitions sont authentiques. Par conséquent, il doit s'y rendre pour prier, mais pas pour y reconnaître par sa présence la vérité des phénomènes dont l'approbation dépend uniquement et exclusivement de l'Église, et qui n'enlève ou n'ajoute rien à la révélation qui est déjà accomplie dans le Christ. Vous voyez, c'est très très mesuré. Les conversions sont-elles une raison suffisante de croire à Medjugorje? Absolument pas. Que ce soit les conversions, mais aussi les guérisons, ce n'est pas un argument suffisant pour évaluer la thèse de l'authenticité des apparitions. Il n'est pas dit que la Madone apparaisse juste parce que les gens se convertissent dans ce lieu. La conversion est aussi possible dans une petite paroisse de campagne. La chapelle Saint-Aubin, par exemple. Tournons-nous vers les voyants. Certaines personnes les accusent d'avoir tout inventé et d'avoir des intérêts économiques, mais certains pensent qu'en réalité le diable apparaît sous l'apparence de la Vierge Marie pour apporter des divisions dans l'Église, même au prix de quelques conversions. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si ces apparitions ont été inventées ou si elles assurent des intérêts économiques. À coup sûr, dans de tels cas, la main du diable peut y être, mais Dieu est si grand qu'il sait comment faire servir même le mal pour le bien de l'humanité. De cette façon, il est possible d'expliquer les avantages que de nombreuses personnes déclarent recevoir à Medjugorje. Donc vous voyez qu'il n'exclut pas, lui ce soir. Dans son fond, une tromperie. Bon. Encore en référence aux voyants, aucun d'eux, contrairement à la grande majorité des autres voyants reconnus officiellement par l'Église, n'a choisi d'avis consacré. L'un d'entre eux a même épousé un modèle américain et vit aux États-Unis dans une énorme villa avec piscine. La vie consacrée a été un beau témoignage de la part de ces personnes, mais je vois qu'il y a une grande différence avec Fatima, où les trois petits bergers ont choisi d'être encore plus petits et plus humbles qu'ils ne l'étaient déjà, afin de vivre en plénitude le magnifique don des apparitions. À ce propos, les voyants affirment que les apparitions de Medjugorje sont la continuation naturelle des apparitions de Fatima. Je ne crois pas qu'il le soit. Je vois beaucoup trop de divergences. Comme je l'ai déjà dit, les petits bergers de Fatima se sont faits humbles et ont choisi le silence. À Medjugorje, je ne sais pas. À Medjugorje, on ne sait pas si c'est ce qui se passe. Sœur Lucie est entrée au cloître. À Medjugorje, aucun n'a choisi d'avis consacré. La même sœur Lucie a mis par écrit les secrets que lui a confiés Notre-Dame, tandis qu'à Medjugorje, ils continuent à les garder pour eux-mêmes. Non, je ne vois rien de commun entre Fatima et Medjugorje. Boum. C'est quand même assez fort, ça. Hein? Éminence, dans certaines apparitions, la Vierge aurait demandé aux six voyants de Medjugorje de ne pas obéir aux interdictions de leur évêque diocésain, telles que, par exemple, ne plus parler publiquement des prétendues visions. Réponse, Notre-Dame ne saurait en aucun cas être anti-hiérarchique et inciter à la désobéissance, même si l'évêque de Mostar avait tort. Ceci est un autre élément à considérer. L'évêque de Mostar a récemment exprimé son mécontentement de ne pas avoir été informé de la présence du cardinal Schönborn à Medjugorje, une présence lourde que certains pourraient interpréter à tort comme une reconnaissance des apparitions par le Saint-Siège. Loin de moi de juger la conduite du cardinal Schönborn, mais moi, étant donné l'attention morbide qui est concentrée sur Medjugorje, et comme je fais toujours chaque fois que je sors de Rome, j'aurais préalablement parlé avec Mgr Peric. Lorsque nous, cardinaux, nous entrons dans un diocèse, nous entrons dans la maison de l'évêque du lieu et nous devons avoir les bonnes manières et le bon sens de nous annoncer. Donc, vous savez que le 17 mars 2010, le Vatican a mis en place une commission d'enquête sur les phénomènes d'apparition mariale présumée de Medjugorje sous la présidence du cardinal Camillo Ruini. Et cette commission est rattachée, enfin doit rendre sa copie à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'une commission instituée par le Saint-Siège enquête sur une apparition. C'est une commission consultative qui proposera son avis et le transmettra à la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est la Congrégation pour la doctrine de la foi qui décidera ou non de publier un communiqué s'il faut ou non impliquer le pape. Donc le processus est toujours en cours. Donc pour l'instant, on ne peut rien dire. Voilà. Pour terminer, peut-être un petit regard sur les publications apparitionnistes, entre guillemets, parce qu'il y en a sûrement qui vous sont tombées entre les mains. Il y en a quatre qui sont importantes. Stella Maris, publié par les éditions du Parvis en Suisse. Hein, c'est en haut de la page 9. Stella Maris. Le sourire du mari, publié par les éditions Résiac en Mayenne. L'étoile Notre-Dame, publié par l'association de pèlerinage Étoile Notre-Dame en Mayenne aussi. Et puis Chrétien Magazine, qui a été fondé à l'origine par le père Laurentin, qui est passé en d'autres mains. Il y en a également une autre qui s'appelle L'Appel du Ciel. Il y en a sûrement d'autres, mais je dois dire que, parce que j'en lis certaines, je m'oblige à les lire, devoir professionnel, et ces revues ne peuvent avoir d'autre crédibilité que celle de leur bonne volonté à servir de prétendus messages divins. Il y a un subtil mélange avec des apparitions reconnues d'une part, donc Lourdes, Fatima, Pontmain, tout ce que vous voulez, des messages du magistère d'autre part, et ce mélange, ce dosage, est parfaitement volontaire pour brouiller les cartes. Donc, on va aussi donner plein de pages sur des prétendues apparitions ou révélations en cours de par le monde. Mais le dosage fait dans les revues est particulièrement subtil pour que on puisse penser que c'est au même niveau, si vous voulez. Et que c'est... C'est assez, au fond, comment pourrait-on dire? Je ne veux pas dire le mot, mais c'est pas très honnête. Par ailleurs, l'aspect cavalier seul, électron libre de ses publications, fait qu'elles ne bénéficient d'aucun discernement d'Église. Elles deviennent le vecteur de tous les pseudo-messages divins, dont la plupart sont au milieu des textes de piété, au mieux des textes de piété, au pire des élucubrations psychiques délirantes ou des malversations juteuses. Pour éclairer ce type de prestation, il est bon de regarder ce que cela peut représenter comme volume éditorial. Nombre impressionnant de livres qu'on nous présente comme étant des paroles du Seigneur par ses prophètes d'aujourd'hui. Alors je vous ai mis, je me suis amusé à faire ça un beau jour, parce que il faut quand même regarder aussi cet aspect. Bon, vous pouvez peut-être enlever Maria Valtorta si vous voulez. Ça fait quand même 5 000 pages ou 6 000 pages, mais vous avez JNSR qui veut dire Je ne suis rien. Je ne suis rien a quand même fait 8 tomes, 8 volumes, 2028 pages. Jean-Marie, 2 tomes, 1424 pages. Jean-Marc, 13 tomes, 2600 pages. Jésus est bavard. Françoise, 13 livres, 2300 pages. L'évêque de Meaux y a mis fin. Catalina, 2 volumes, 580 pages. Mirella Pizzioli, qui dialogue avec les âmes du purgatoire, 4 volumes, 784 pages. Angela, Jean, Alan Hams, 11 volumes. Micheline Boisvert, qui s'est fait expulser du Canada, qui est en France, 4 volumes. Axel, qui parcourt la France, 3 volumes. Domenico, 4 volumes. Léandre Lachance, 3 volumes. Frère Élie, qui s'étale sur des photos stigmatisées, avec des blessures profondes, 3 volumes. Jean, messager de la lumière, dont les parents reçoivent des messages par écriture automatique. Il est décédé. 6 volumes. Jocelyne Genton au Canada, 2 volumes. Angelina, fille du soleil qui parcourt la France, 450 pages en 3 volumes. Giuliana Buttini, 3 volumes. Enfin, on n'en sort plus. Parution auxquelles il faudra ajouter tous les CD, les DVD, les interviews. Et les messages apparitions en direct dont sont favorisés les voyants au cours de leurs conférences, dont nous lisons les comptes rendus dans cette presse spécialisée. Et le tirage de livres imprimés donne la mesure de la crédulité des gens, car ces livres sont publiés bien plus largement au niveau du premier tirage que ne le sont les livres qui sont en vente chez Siloé ou ailleurs. Enfin, un livre aujourd'hui s'est tiré à 1 000 exemplaires pour ne pas prendre de risques. Ces livres-là sont facilement tirés à 5 000, 10 000 exemplaires dès le premier tirage. On peut même donner les droits d'auteur à l'avance aux personnes parce qu'on sait que ça va se vendre très bien, très très bien. Et il y a une affaire financière par-dessous entre les voyants, les messagers d'une part, qui touchent des dividendes, et les maisons d'édition qui s'engraissent sur leur dos. Pour moi, c'est très très évident. J'ai regardé de près enfin, cette affaire-là. J'ai été moi-même responsable d'une librairie à Notre-Dame-du-Chêne, donc je sais comment ça fonctionne. Et c'est un aspect qui me semble assez évident, quoi. Donc ces gens pensent que vraiment Jésus et la Vierge parlent en direct. Et donc si l'Église ne s'y intéresse pas, c'est vraiment qu'elle est complètement obtuse. Voilà. Mais Saint Jean, dans l'Apocalypse, parle du petit livre ouvert pour parler des évangiles. Petit livre ouvert. Et pour terminer le point 9, en fait, il y a un critère qui est absolument essentiel, c'est le critère de la sobriété. Le critère de la sobriété. Car la dévotion a tendance à développer, à amplifier, parfois de façon débordante, tandis que l'évangile résume avec simplicité et sobriété. Je vais vous donner deux exemples. La passion de Jésus, par exemple. Prenez nos chemins de croix et prenez l'évangile. Si vous regardez dans le récit de l'évangile, de la passion, les trois chutes de Jésus, sa rencontre avec sa mère, la présence de Véronique, ne sont pas dans l'évangile. Ça fait quand même 5 stations sur 14 et aucun de ces épisodes n'y figure. Or, si vous comparez cela avec les longues méditations des mystères du rosaire sur la flagellation, le couronnement d'épines, si vous comparez ces méditations du rosaire avec les passages de l'évangile correspondants, Vous verrez que dans les évangiles, il y a simplement un demi-verset à chaque fois, c'est tout. Et que là, au contraire, la dévotion développe, amplifie, etc. Sobriété. Un autre exemple, si vous voulez, qui peut venir comme ça, qui est venu à mon imagination, l'évangile nous rapporte au moins trois récits où Jésus rappelle à la vie une personne décédée. La veuve de Naïm, le fils de la veuve de Naïm, la petite fille de Jaïr, et puis son ami Lazare, vous savez ça. Eh bien, croyez-vous que les évangiles soient remplis de révélations faites par ces personnes sur le contenu de ce qu'elles avaient vécu après leur mort? Rien, le vide complet, sidéral. Hein, c'est désolant. Mais un vide apparent peut devenir un signe évangélique fort, émis dans notre direction pour nous dire en quelque sorte, vous n'avez pas à chercher à savoir ces choses. Voilà. Vous n'avez pas à chercher à savoir ces choses. Et je vous rappelle cette parole de Jésus qui est en caractère gras, je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Donc il nous a tout dit. Voilà, j'abrège parce qu'il est 10 heures dépassées, mais moi personnellement j'aime bien Pommard, 1871, ça tient sur une demi-phrase, mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher. C'est écrit sur une banderole. Marie se montre, ne dit rien. Un voile finit par la masquer. Et pourtant, elle est tout à fait présente dans la démarche de la foi que nous vivons. Mais à Pommain, on a véritablement à la fois un beau message, puis aussi une belle pédagogie de la Vierge et une belle façon pour elle de se situer en disparaissant derrière le message. Voilà.